Bonjour Yves Citon, merci de répondre à mes questions. On parle de renverser l'insoutenable qui vient de paraître au seuil. Tout d'abord, pourquoi le choix de ce terme d'insoutenable ?
Alors, insoutenable, ça essaye de décrire un état multiple dans lequel nous nous trouvons. Et le premier paradoxe pour moi, c'est que finalement, ma vie a l'air très soutenable. Non seulement soutenable, mais agréable. J'ai un travail, j'ai un revenu, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Et il me semble néanmoins que même chez les gens les plus privilégiés dont je fais partie, il y a une sorte de pression, une sorte d'état d'horizon, de perspective qui relève de l'insoutenable. Alors je vais rapidement passer en revue les différentes déclinaisons que je propose de l'insoutenable au début du livre, à savoir je reprends le terme de l'anglais unsustainable, qui fait référence d'habitude à des aspects plutôt écologiques. C'est un mode de développement qui serait insoutenable, pas durable dans le long terme. On peut pas vivre avec la même consommation de pétrole, etc., etc. On voit bien ça. Donc là, l'insoutenable, je le reprends de l'écologie. Et j'essaye de le faire sentir aussi, non seulement dans notre rapport à l'environnement physique, mais aussi bien dans nos rapports sociaux. Les inégalités qui s'exacerbent sous différentes formes à l'intérieur de nos pays me semblent produire une autre forme d'insoutenable qui est à la fois de l'ordre de ce qu'on ne peut pas tenir, ce qu'on ne peut pas faire durer, ce qu'on ne veut peut-être pas non plus faire durer. Donc deuxième notion de l'insoutenable, ça serait dans le domaine social à l'intérieur de nos sociétés. Troisième extension de l'insoutenable, ça serait au niveau géopolitique, entre nos sociétés à nous riches et d'autres sociétés pauvres. Le tiers-monde, les pays sous-développés, etc., etc., avec toujours la notion de développement qui est au cœur de tout ceci. Et là, les inégalités cruelles entre nos modes de vie et ceux de gens qui vivent dans certaines parties de l'Afrique reproduisent à une échelle plus large les inégalités qu'on trouve entre certains quartiers de Paris et d'autres quartiers de Paris ou de la banlieue, et donc contribuent à une autre forme d'insoutenable, parce qu'il y a des logiques un petit peu différentes. La quatrième forme que j'essaye de faire apparaître, c'est un petit peu le résultat aussi de celle-ci, qui est un insoutenable mental ou psychique. À l'intérieur d'un travail, quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est pauvre peut être soumis à des pressions insoutenables de la part de son employeur ou de la part des tiraillements entre son emploi et sa vie de famille, ou ses parents malades, etc. Et donc là, il y a pas mal de gens autour de moi et en moi qui sont soumis à cet insoutenable-là, d'ordre psychique. Et le dernier qui vient un petit peu chapeauter, et me semble-t-il, qui est le lieu de passage entre ces différentes formes d'insoutenable, qui serait médiatique, la circulation des images, des discours, des mots, des textes, des bouts de narration dans lesquels on baigne, qui passent par une certaine structure de l'appareil médiatique.
Donc après avoir conceptualisé l'insoutenable, notamment par les cinq formes qu'il revêt, là vous utilisez un concept, celui d'écosophie. L'écosophie, à quoi sert ce concept ?
Alors c'est un concept qui circule pas mal, hein, que je reprends à des gens comme, en France, donc Félix Guattari, qui avait fait un texte dans les années 90, je crois au début des années 90, qui s'appelait « Trois écologies ». Moi je parle de cinq insoutenables, mais c'est une sorte de dérivation de ces trois formes d'écologie, qui pour lui étaient donc nos rapports à la nature, nos rapports au social, au sociopolitique et mental. Guattari était d'abord un psychiatre, un psychanalyste. Et donc, voilà, l'écosophie, lui employait ce mot, quelqu'un d'autres que j'aime bien, qui est Arne Naess, et les gens de l'écologie profonde parlent aussi d'écosophie. Et donc l'idée, c'est non seulement de se déplacer de l'économie à l'écologie, en ne se contentant pas simplement de regarder les taux de croissance et la production humaine, mais en l'intégrant dans un contexte plus large de notre rapport aux ressources et à la planète, mais de viser une intégration de l'écologie traditionnelle comme extension de l'économie et de la politique, de la sociopolitique et de la psychologie ou philosophie ou ce qui s'intéresse plutôt à l'esprit, au fonctionnement de l'esprit et aux circulations de ce qui nourrit nos esprits.
Donc une sorte de grande transdisciplinarité ?
Oui, si on veut, transversal. Guattari aimait beaucoup ce qui était transversal, donc il y a ceci. Transdisciplinarité, ça ne me satisfait pas complètement parce que ça nous dit que ça se passe à travers des disciplines. Et moi, je préfère le mot d'indisciplinarité pour faire exploser même le côté plan. Enfin, quand on parle même de trans, d'habitude c'est interdisciplinarité, transdisciplinarité, il me semble que ce n'est pas forcément très différent. Ça postule que finalement, on est sur une sorte de champ plat, qu'il y a des barrières qui disent que d'un côté, il y a les psychologues, de l'autre, il y a les spécialistes du droit et puis quelque part ailleurs il y aura les spécialistes de la littérature. Et qu'est-ce que c'est que le trans ou l'interdisciplinaire? C'est de passer à travers les barrières. Alors pourquoi pas, hein, c'est déjà un bon début, mais il me semble beaucoup plus important de comprendre le besoin d'intégrer toute une série de strates qui sont en chacun de nous. Et l'indisciplinarité, ça serait de reconnaître le besoin pour chacun de nous d'être un expert. Alors on peut être un expert à la fois en droit et en histoire, pourquoi pas, ou à la fois en littérature et en philosophie, donc là on est un petit peu trans ou interdisciplinaire, mais l'indiscipline, c'est le besoin, et l'écosophie serait là derrière, de se dire je suis non seulement un expert lorsque j'écris des livres, des articles ou que je fais des conférences, mais je suis aussi un électeur, mais je suis aussi père de famille ou fils de famille, mais je suis aussi un pollueur, mais je suis aussi un voisin, un ami, etc., etc. Et cette intégration-là de différentes couches de notre personne, hein, au sens où persona, c'est aussi des masques, donc d'intégrer les différents masques qui font notre personne, il me semble que l'horizon de l'écosophie, c'est ceci.
Pour renverser l'insoutenable, donc il y a deux parties dans votre livre, après avoir évoqué le concept d'insoutenable. Pour renverser l'insoutenable, il y a une politique de dépression, et une politique des gestes, c'est ce que nous allons développer maintenant. La politique des pressions, tout d'abord, votre deuxième partie, la politique des pressions, dites-vous, vise à formaliser l'émergence d'un nouvel imaginaire qui paraît devoir se substituer au fantasme de l'action. L'enjeu principal, continuez-vous, est de penser la politique sans l'action, la tension sans résolution explosive, les conflits sans lutte finale. Vous prenez le contre-pied des caractéristiques du fantasme de l'action par cette politique des pressions.
Oui, ça c'est une partie un petit peu problématique du livre. Il y a plein de choses problématiques dans le livre, mais en particulier celle-là, à savoir parler de politique des gestes ou de politique des pressions, comme vous l'avez très bien compris et résumé, c'est essayer de frayer des alternatives à la conception qui me semble être dominante de la politique, qui est les actes politiques. Qu'est-ce qu'on va faire ? Que faire, nous demande Lénine, nous propose Lénine. Voilà, il y aurait des actes qui seraient des actes politiques et puis d'autres choses qui ne seraient pas politiques. Et donc cette distinction-là, il me semble qu'elle a tendance à se diluer, à se dissoudre à travers justement la suite de Guattari et tout ceci, des politiques moléculaires. Hein, on est du côté des molécules, des petites choses qui se réarrangent sans cesse et c'est difficile de dire ben là c'est politique ou là c'est pas politique. Il y a tout. Alors aux États-Unis c'était de dire que le personnel est politique, hein, les affaires personnelles, si on est gay, si on est vieux, si on est obèse, etc. On peut se dire ben tiens, c'est le problème de la personne, oui, mais c'est aussi, il y a des dimensions politiques dans ceci. Donc il y a une sorte de dissolution du politique qui est partout et donc qui est nulle part, dont j'essaye simplement de prendre compte. Si on est dans cette situation-là, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir appeler politique ? Et je ne sais plus trop. Et il me semble que là, dire ce qu'on vise, c'est soit à prendre le pouvoir, soit à faire un acte politique isolable comme tel, ça me semble douteux. Donc je développe ces histoires de pression et de gestes. En même temps, après avoir fini et publié le livre, je lis quelqu'un d'autre qui s'appelle Bernard Aspe, A-S-P-E, que j'aime bien, qui est un théoricien que j'aime beaucoup, qui avait fait quelque chose sur les oasis, ça s'appelait L'instant d'après, que moi j'avais beaucoup aimé, L'instant d'après. Là, il a sorti en 2011, je crois, quelque chose, il me semble, c'est Les mots et les actes, ou quelque chose comme ça.
C'était sorti à La Fabrique, hein.
L'instant d'après était à La Fabrique, exactement. Et celui-ci, c'est un autre éditeur dont maintenant j'oublie le nom. Mais je crois que ça s'appelle Des actes et des mots et des actes, comme ça. Où lui, au contraire, essaye de dissocier philosophiquement, ontologiquement, ce que c'est que le sujet de l'économie. Et le sujet de l'économie, lui, il est pris dans des pressions, il est pris dans toute une série de choses que je fais. Et il y aurait autre chose qui serait un sujet de la politique, qui est justement basé sur une rupture, sur une cassure de la logique du capitalisme, de l'économie, de la démocratie représentative, etc. etc. Et quand je lis Aspe, je me dis, bah, il a raison. C'est de ce côté-là qu'il faut aller. Il faut aller du côté de définir un acte politique justement comme acte, de revendiquer ceci, que nous autres, qui sommes tellement baignés et infestés par une logique capitaliste, on n'arrive même plus à le penser. Donc je le lis, je trouve ça très beau, je me dis je vais récuser tout ce que j'ai pu écrire, et en même temps je me demande sur quoi ça débouche, sa réflexion. C'est un très beau livre de philosophie, une très belle réflexion sur l'ontologie, et pratiquement, il me semble, ça nous dit, il va y avoir un événement, là peut-être qu'on peut aussi réfléchir à des choses comme les extraterrestres, il va y avoir un horizon de perspective et d'événement qui doit venir. Alors est-ce que c'est le mois prochain parce que la Grèce aura vraiment foiré, est-ce que c'est dans 10 ans, est-ce que c'est dans 300 ans, peu importe, mais on est à l'horizon d'un événement dont on pourra faire partie, partiellement, parce que c'est pas une personne tout seul qui va le faire, ça se contrôle pas, ça se prévoit pas, mais il faudra à ce moment-là être prêt à l'acte. Et ça, ça me, à la fois, je trouve ça très beau philosophiquement et ça ne me satisfait pas. Parce que je me dis, si on est tous à attendre que l'événement arrive, même si on fait ce qu'on peut entre-temps, ce qu'on me dit de faire entre-temps, ça me, voilà, il n'y a rien qui me satisfait. Donc le présupposé du livre, c'est de se dire, on ne va pas regarder l'acte dans le futur, mais on va se demander qu'est-ce que je fais dans le présent. Et ce que je fais dans le présent, pour moi, ça n'a pas forcément la dignité de l'acte. Là, je pense aussi à des... Enfin, c'est toujours les mêmes gens, Deleuze et autres, qui parlent de Leibniz et qui se disent, se raser le matin, ce n'est pas un acte. Hein, on se rase le matin, mais ce n'est pas un acte. Un acte, ça, c'est quand même quelque chose de très particulier qui sous-entend le fait qu'on ne puisse pas prévoir ce qui va en sortir, une sorte de perte de maîtrise dans l'acte, quelque chose de collectif, etc. etc. Et donc, les actes, on ne sait pas très bien. En revanche, le matin, on se rase. Ou après s'être rasé, on va faire cours, ou on va parler à des gens, on fait une émission de radio, ou on va acheter quelque chose, ou on va faire des vacances, je ne sais pas où. Et dans toutes ces petites choses qu'on fait, ces petits comportements, qui n'ont pas forcément la noblesse et le côté extraordinaire d'un acte, eh ben le monde, il roule là-dessus. Alors peut-être qu'on veut que la façon dont le monde roule change, très bien. Peut-être que c'est à travers un ou quelques actes spectaculaires qui vont faire que ça va changer. Mais même si on regarde historiquement, qu'est-ce que c'est que des révolutions? Il y a des actes, il y a des choses comme ça qu'on peut cibler et qu'on peut isoler dans le temps et dans l'espace. Et en même temps, ce qui a fait que ces révolutions ont débouché sur autre chose que simplement le changement de personne à la tête d'un régime, ça a été que des pratiques, des petites pratiques, auront évolué dans le moyen ou dans le long terme. Et donc là, le pari du livre, c'est un petit peu de se dire comment penser ces petites pratiques moléculaires, alors en termes de pression, en termes de gestes, qui sont toujours des petites pressions, qui sont toujours des petits gestes, qui ne vont pas du tout remplacer l'acte révolutionnaire. Moi, tant mieux, si on me propose un acte révolutionnaire demain et que ça bouge sur quelque chose, moi, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Mais vu que ça, on ne me le propose pas tout le temps, ou que ce qu'on me propose, ça ne m'enchante pas, je me dis, déjà, regardons les comportements avant de, ou en même temps qu'on essaye de rêver d'acte.
Mais en même temps, Yves Citon, entre l'action et les pressions, vous avez cette idée? Cette idée de l'œuvre créatrice, je vous cite, « Une politique des pressions devrait viser à opérer une insurrection par l'œuvre. » Ça, c'est une idée aussi.
Alors ça c'est une idée, justement là je renvoie à vos auditeurs à Bernard Arras parce que son dernier chapitre c'est justement pour dire qu'un acte ça se résout pas à une question d'œuvre. Et c'est pour ça aussi qu'il m'intéresse, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il dit, et même c'est pas histoire d'être d'accord, c'est histoire que voilà, que c'est très beau ce qu'il dit et en même temps ça me satisfait pas complètement. Ce qu'il vise lui comme politique c'est justement pas de l'ordre de l'œuvre, c'est pas quelque chose qu'on crée. Parce que là, il y a quand même le modèle derrière du créateur, derrière l'œuvre, qui fait qu'on peut faire ça chez soi, on essaie quand même de contrôler son œuvre, même si ça peut être une performance, ça peut être plein de choses, mais il y a toujours ceci. Qu'il faut penser la politique, ça serait un autre modèle que l'esthétique et que la création esthétique. Donc, ça c'est ce que dit Asp, et quand je le lis, je me dis qu'il a raison. Alors, l'œuvre, moi, la façon dont j'essayais de le présenter dans ceci, c'est que... on peut concevoir des petits modes de comportement orientés vers des finalités qui ne sont pas forcément des finalités révolutionnaires ou politiques, mais qui néanmoins coagulent. J'aime bien la notion de coagulation. Si on parle en termes moléculaires, etc., ce qui devient important, c'est comment une multiplicité de subjectivités, par exemple, coagule autour d'un mouvement social, que ce soit une grève, que ce soit d'occuper une télévision, que ce soit tout ceci. Donc cette coagulation, il me semble, c'est important pour le passage de l'individuel au collectif, si on veut, mais aussi bien pour soi-même. Que nous sommes ce que nous avons réussi à faire coaguler des molécules et des flux qui nous traversent. Et donc l'œuvre, ça serait une façon à la fois de construire son être à soi et en construisant un objet. Là, bon, c'est du Hegel, là, on retrouve des choses très anciennes là derrière, et que ça pourrait être une sorte de moyen terme parce que l'œuvre, je la produit, hein, je la construis, je la bricole, je dirais plutôt ça, je la bricole toujours sous pression, à savoir qu'il y a des choses que j'ai, des choses que j'ai pas, du temps que j'ai, du temps que j'ai pas, et donc c'est toujours en fonction de certaines pressions ou en fonction de certains mécanismes, de temps en temps j'essaie de parler de modulateurs de pression, c'est en fonction de certains mécanismes qui permettent de suspendre certaines pressions qu'une œuvre est possible, et pour le coup là il me semble qu'il y a toute une dimension politique, là on retrouve la politique différemment, pas forcément de Le Grand Soir, mais de se dire, il y a une revendication que nous devons tous avoir politiquement, qui est justement de ne pas nous laisser écraser par les pressions devenues insoutenables, pas forcément parce qu'on va crever la bouche ouverte, mais parce qu'on n'a pas du tout le temps de se construire soi-même et de construire une œuvre. Et il serait compréhensible qu'on n'ait pas du tout le temps de se construire soi-même ou de se construire une œuvre si on était dans le désert où il n'y a pas d'eau et puis il faut survivre et puis il faut courir jusqu'à ce qu'on trouve une source, mais qu'on est quand même dans un moment historique de richesse inouïe et qu'on a largement de quoi, pas seulement nous à Paris en France ou dans l'Europe, mais sur toute la planète, on a largement de quoi se donner à tous des vies soutenables et se donner à tous des zones protégées des pressions de la survie pour construire une pensée, pour construire une œuvre, pour construire une subjectivation. Et donc l'œuvre, c'est à la fois quelque chose que chacun de nous essaye de construire pour, voilà, pour advenir à ce qu'il peut être, et en même temps une revendication politique. Chacun, alors c'est Beuys qui disait chacun est un artiste, à la fois ça, je trouve très beau, chacun est artiste, d'accord, mais ça reste très abstrait si on ne met pas en place des structures qui permettent à chacun de faire son œuvre. Et son œuvre, ça peut être du sport, ça peut être de l'ufologie, ça peut être de la poésie, ça peut être plein de choses fondamentalement différentes et imprévisibles.
Parce que pour continuer dans ce sens-là, vous dites vraiment de manière très très claire que nous sommes passés de l'univers restreint de nos expériences personnelles. Il y a un siècle, c'était nos expériences personnelles, la famille, les voisins, le village, ou alors le quartier de la ville où on habitait. Et puis ça, c'était il y a un siècle, et maintenant on est dans un univers de l'inexpérience avec les médias. Du coup, tous ces différents médias, on a connaissance d'autres expériences qui ne sont pas la nôtre propre. C'est ce que vous appelez l'inexpérience. Et ça, du coup, pour la question de l'œuvre créatrice, ça a plutôt des vertus démultiplicateurs.
Tout à fait. Donc là, je reprends ça directement d'un Italien qui s'appelle Antonio Scurati, qui est un romancier italien qui a fait un petit ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle, je crois, Le roman de l'inexpérience ou Littérature de l'inexpérience. Mais ça remonte aussi plus antérieurement à Walter Benjamin qui théorisait ça, cette notion de d'évanescence ou d'atrophie de l'expérience dont on peut se plaindre. Voilà, on peut se dire tiens, c'est dramatique, de même que là je suis en train de on parlera peut-être tout à l'heure de la question des gestes. On peut d'un côté se dire ah bah oui, alors entre 1800 et aujourd'hui, il y a eu un appauvrissement fondamental de gestes, de ce que nous faisons avec nos mains. Que ça soit du point de vue de l'artisanat, où ce sont maintenant des choses en plastique ou à la chaîne qui sont produites, ou même, moi je le vois dans ma petite vie personnelle à moi, où j'ai de plus en plus de peine à écrire avec un stylo. Donc là, le passage du stylo au clavier, on peut se dire qu'il y a un appauvrissement, on perd tout le côté peinture, tout ce qu'étudie la graphologie, etc. Donc, appauvrissement de nos gestes, appauvrissement peut-être de notre expérience, parce qu'on passe notre vie à regarder des écrans ou des pages de livres. En même temps, je ne suis pas du tout dans ce discours décliniste ou catastrophiste ou nostalgique. On gagne énormément. Enfin, dans les pages d'un livre, on peut découvrir d'autres formes de gestes, des gestes relationnels, des gestes affectifs, qui sont peut-être beaucoup plus riches finalement que les gestes qu'on peut faire avec sa main et un bout de bois, ou en tout cas différemment riches que les gestes qu'on peut faire de l'artisan. Même chose avec l'expérience. Le fait que nous baignons dans un bain de récits et de descriptions et d'images, et de son, à la fois c'est différent du fait de vivre et de travailler sur un champ, et là d'être exposé à la pluie, à la foudre, à tout ce genre de choses, et en même temps ça permet des déploiements de nouveautés inouïes. D'où un statut de la fiction qui devient très différent, non pas essentiellement, mais simplement quantitativement. Le fait que notre forme d'inexpérience, ça soit en fait un bain presque constant, une immersion quasiment constante dans un monde de fiction, que ce soit des séries télévisées, des films, etc., etc., et ben, pour moi, il y a plutôt de quoi s'en réjouir. À savoir, ça nous permet de découvrir plein de mondes possibles, ça nous permet d'évoluer temporairement dans plein de mondes possibles, et ça nous donne surtout une mesure d'influer sur le développement de nos subjectivités en produisant ce type de discours, de bain, de fiction. Et là donc, il y a, voilà, comme vous le dites très bien, cette inexpérience a l'air de se présenter comme une sorte de regret du temps où on avait les mains pleines de terre et puis les tomates avaient bon goût. Bon, c'est pas faux. En même temps, on peut rêver plein de tomates différentes, de fruits différents, d'expériences, surtout de rapport aux autres. Là, il me semble que ce qu'on a peut-être perdu du point de vue du rapport aux choses, et il n'y a pas de raison qu'on l'ait perdu, on peut tout à fait imaginer un monde dans lequel les tomates aient du goût. Donc ça, c'est tout à fait légitime de se battre pour retrouver un certain nombre de choses qu'on a peut-être perdues, mais ne perdons pas de vue non plus toute la panoplie de possibilités qui s'ouvrent devant nous, dont nous jouissons déjà largement et dont nous pourrions jouir beaucoup mieux.
On en arrive donc, Yves Citon, à cette politique des gestes, votre dernière partie dans votre livre « Renverser l'insoutenable ». Donc là, nous avons parlé de la politique des pressions, et puis nous avons débordé sur la politique des gestes, parce que bien entendu, tout ça, c'est imbriqué, politique des pressions, politique des gestes. Vous en avez fait deux parties, bien entendu, mais on sent bien qu'il y a, voilà, que les liens sont plus qu'évidents, et les liens sont nécessaires entre les deux. Cette politique des gestes se confronte, dites-vous, à cette nécessité inéluctable de la vie sociale, à savoir l'illusion, ce que vous appelez l'illusion. Il y a à la fois, pour la personne, conscience de jouer un jeu et croyance dans le jeu qu'on joue. On est encore dans cette idée d'inexpérience, qui, notamment par le rôle que peut jouer la fiction. Du coup. Donc, parlons de cette illusion qui se confronte à la politique des gestes, enfin une confrontation illusion politique des gestes, dont vous en sortez très bien.
Ok, donc là peut-être pour cadrer un petit peu le propos, parler de politique des gestes, de nouveau c'est une alternative à l'acte. Là c'est plus l'alternative du multiple et de dire simplement il y a plein de pression et ça nous traverse et c'est des flux et du moléculaire, je ne sais quoi, mais c'est de dire ce qui fait acte aujourd'hui dans une société justement de l'inexpérience où ce dans quoi nous baignons ce sont des discours, des images, des choses qui circulent sous cette forme-là, ce qui compte c'est nos gestes. Nos actes comptent en tant qu'ils sont vus, en tant qu'ils sont diffusés, justement diffus, ça les molécularise aussi. Et donc, si on veut imaginer des actes politiques, il me semble qu'il faut inéluctablement les imaginer en tant que gestes. Et qu'est-ce que c'est qu'un geste ? Alors là, j'esquisse deux ou trois choses dans ce livre-là, et en fait, en même temps, je travaillais sur autre chose qui va sortir chez Armand Collin, qui est plus précisément sur la notion de geste, et là, qui essaye de réfléchir alors, directement en termes d'esthétique. Et donc, le geste, c'est ce que fait l'acteur, et non seulement l'agent. Et donc, a priori, on se dit que c'est une parodie d'acte. L'acteur sur scène, il est payé ou il a envie de faire quelque chose qui n'est pas vrai. Il joue un personnage, c'est justement le masque et pas l'agent social réel. Et donc, traditionnellement, ça a été dévalué. Il vaut mieux être un agent qui fait les choses qu'un acteur qui fait semblant. Illusion, etc. Ce qu'on a appelé avec Debord la société du spectacle, ce que Baudrillard appelle l'hyper-réalité, enfin, il y a toute une série de réflexions qui se sont mises en place dans les 30 dernières années, qui désignent tout un renversement, à savoir que justement aujourd'hui ce sont les gestes, ou c'est en tant que gestes que comptent nos actes. Et donc ce qui fait semblant, c'est le semblant qui compte autant, voire plus que l'expérience réelle. Et donc investir les gestes, c'est d'une part reconnaître tout ce potentiel de fiction, comme on disait tout à l'heure, hein, je peux faire les gestes de quelqu'un que je ne suis pas jusqu'à un certain point, hein, je peux par exemple, ce qui m'intéresse aussi c'est de se dire, est-ce que je peux faire les gestes du pianiste ? Donc je peux faire semblant d'être un pianiste ou semblant d'être un guitariste, hein. Il y a les compétitions de air guitar qui se font souvent je crois, et moi je suis ça, malheureusement je ne suis pas un guitariste et je regrette beaucoup de ne pas être un vrai guitariste. Le geste c'est à la fois, c'est tout un spectre en fait de comportement qui à la fois tient du semblant et en même temps lorsqu'on le pousse, eh ben, je ne peux pas faire semblant d'être Frank Zappa. Je peux pas. Je peux faire semblant de jouer de la guitare, ce que faisait Frank Zappa en jouant de la guitare, c'était aussi des gestes. Et le geste du guitariste, du vrai guitariste qui est en train de faire de la musique, c'est un geste. Et pourtant, il y a une ce qui définit l'essence de Frank Zappa, c'est une certaine coïncidence entre son corps qui faisait un certain nombre de gestes physiques, son esprit qui intégrait ses gestes dans des musicalités, mais aussi dans des projets sociopolitiques, des revendications, etc., etc. Et le geste, il est là. Ce qui définit un musicien, c'est son geste, c'est sa singularité. Et c'est pas du tout une apparence. Oui, c'est une apparence, parce que c'est fait pour être entendu. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus intime, de plus expérientiel, justement, et pas du tout de plus semblant. Donc la notion de geste m'intéresse parce qu'elle permet de balayer tout un spectre qui montre la continuité entre ce qui fait mon être dans ce qu'il a de plus réel, de plus intime, de plus puissant. Et là, ça revient à des gestes. Alors là, je parle de gestes physiques avec les doigts sur une guitare, mais ça peut être aussi de nous une capacité à faire certains gestes affectifs, gestes relationnels et autres. Et en même temps, lié en continuité avec ceci, il y a cette capacité ou cette conscience du fait que c'est fait pour que les autres entendent, pour que les autres voient. Et donc, à la fois dans un champ qui est limité, qui serait celui de la politique, c'est à travers les dispositifs médiatiques dont je parlais tout à l'heure, c'est en concevant ce qu'on fait en termes de gestes, par qui ça sera vu, comment ça sera vu, comment ça risque d'être pris, quels effets ça va faire sur les spectateurs. C'est comme ça qu'il faut penser la politique. Et donc, ne pas du tout mépriser toutes ces attitudes politiciennes dont on te dit c'est du spectacle, c'est pas de la politique parce que c'est du spectacle. Non, il n'y a pas d'autre politique que de spectacle, d'une part. Mais d'autre part, plus largement, toute la vie sociale est innervée par ce qu'on voit les autres faire, que ça soit forcément à la télévision, à travers des écrans, ou même dans la rue. Hein, il y a toute une, là j'ai lu Gabriel Tarde il y a pas mal de temps, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, et là il y a toute une pensée du social à travers l'imitation, en disant que ce qui définit une société c'est des rapports d'imitation, Ça, j'y crois assez intimement. Et donc, non seulement à travers toutes ces images sur écran dans lesquelles on baigne, mais au jour le jour, c'est en voyant un sourire qu'on répond à un sourire, c'est en voyant quelqu'un faire quelque chose que nous ajustons toujours nos gestes aux gestes. Et donc, à la fois du point de vue de la vie sociale, du point de vue de l'esthétique et du point de vue de la politique, il me semble que le geste est une notion centrale.
Que vous développez encore actuellement, du coup.
Voilà, que j'essaye de bricoler encore maintenant, justement, un truc qui sortira chez Armand Collin vers le mois de novembre, qui sera un peu plus indigeste que celui-ci, et qui essaye, là, de se demander, en particulier avec la littérature, là, la thèse, c'est de se dire, pendant les trois derniers siècles, la littérature, ça a inculqué un certain nombre de gestes. Lire un roman, c'est s'immerger dans une histoire, dans un rapport, de nouveau, dans des relations. Et lorsqu'on lit un roman et qu'on fonctionne à l'immersion, il y a d'autres fonctionnements pour lire des romans, mais massivement quand même nous tous, même si on fait semblant d'être érudit et de faire de la science ou je ne sais quoi, des textes ou de la théorie, quand on lit des histoires, on est quand même pris dedans. Donc cette immersion est un lieu d'inculcation de gestes. Le geste critique lui-même, justement, est une certaine forme de geste face à ces gestes dans lesquels on est immergé, et donc d'essayer de repenser les expériences esthétiques en fonction de la notion de geste. C'est ce que j'essaie de bricoler maintenant.
Merci beaucoup, Yves Fiton. Merci.